le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Il est 16h sur France Culture. Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Vous êtes à l'écoute des conférences du Carême protestant. Comme chaque année, ces conférences vous accompagnent pendant 6 semaines jusqu'à Pâques. Un temps de réflexion, un temps de retour à l'essentiel, un temps pour sortir de nos habitudes et de notre routine. Cette année, nous passerons ce temps de Carême avec le pasteur Bruno Godelet de l'Église protestante unie de France à Neuilly-sur-Seine. Le pasteur Godelet nous invite à cheminer avec 6 personnages bibliques. Ils sont touchés dans leur existence par leur rencontre avec Jésus. Bruno Godelet nous propose une mise en récit théâtral de ces figures de la Bible. Nous entrons dans le fort intérieur de ces femmes et de ces hommes. Nous comprenons mieux leur ancrage social et théologique. Notre culture, notre langage, nos imaginaires sont tapissés de références aux personnages bibliques. La littérature, l'histoire, les arts renvoient constamment aux héros des deux testaments et à leurs aventures. L'analyse historique et littéraire est indispensable pour comprendre et interpréter les textes. Ces écrits nous parlent de ces héros et des hauts faits de Dieu. Cependant, ce n'est pas la seule façon de comprendre la Bible. La lecture narrative a acquis ses lettres de noblesse depuis 40 ans. Elle retrouve la saveur des figures bibliques et des récits. Plutôt que d'opposer les deux méthodes, il est bien de les combiner. C'est le libre cours que suivent nos émissions de Carême cette année. Elle donne la parole à des figures narratives des évangiles. Aujourd'hui, nous sommes avec l'apôtre Pierre. Apprendre à se pardonner soi-même.
Je suis né en Galilée, au sein d'une famille juive qui vivait près du lac de Tibériade. Mon frère et moi, nous avons été élevés par nos parents dans le respect de Dieu et des traditions de la loi de Moïse. Nous respections scrupuleusement le Shabbat et rien de ce que la loi de Moïse déclare impur n'entrait dans ma bouche. Pour gagner notre vie, il nous fallait travailler dur sur ce lac de Galilée. Mais nos filets ne ramenaient parfois guère plus que la nourriture du jour. Bon, ce n'était pas la misère, mais enfin, nous ne roulions pas sur l'or. Payer ou ne pas payer l'impôt que les Romains nous imposaient était toujours une question pour nous. Certains zélateurs de la loi, ou autres partisans d'une résistance musclée à l'égard des Romains, estimaient qu'il ne fallait pas payer l'impôt à César, ni les taxes. Mais comment résister aux soldats romains? Nos chefs nous recommandaient de ne pas écouter les agitateurs ou les séditieux et de nous acquitter de l'impôt. La diversité des opinions et des courants allait cependant bon train, comme c'est le cas, je le crois, à toutes les époques, dans toutes les sociétés. L'idée que Dieu allait peut-être susciter prochainement un héros pour rétablir la royauté et les frontières du pays données par Dieu à nos pères faisait son chemin dans bien des esprits. C'est dans cette ambiance que j'ai grandi dans mon coin de Galilée. M'avez-vous reconnu? Mon nom araméen est Kephas, mais en hébreu on m'appelle Shimon. Les gentils, eux, me connaissent sous le patronyme de Pétrus, c'est-à-dire Pierre. J'ai rencontré Jésus alors qu'avec mon frère André, nous revenions d'une pêche infructueuse. Il avait l'allure d'un rabbi galiléen itinérant, mais avec beaucoup de personnalité et de l'énergie à revendre. Comme une foule de gens venus des villages alentours le suivaient, il voulut monter sur notre barque pour s'adresser à son auditoire rassemblé sur le rivage. « Rabbi, maître, lui dis-je, monte, je t'en prie. » Il commença à parler avec une clarté et une pertinence qui nous secoua rapidement, André et moi. « Le temps est accompli, disait-il. Le royaume de Dieu s'est approché. Retournez-vous vers Dieu et croyez la bonne nouvelle. » Nul homme ne parlait comme lui. Il nous expliquait que Dieu ne devait pas être considéré comme un juge dont la tâche est de punir ceux qui dérogent à sa loi. « Dieu, enseignait-il, est un Dieu d'amour et de miséricorde. il est notre Père céleste. L'autorité qui émanait de lui, la puissance des images qu'il utilisait, la capacité qu'il avait à susciter en ses auditeurs l'espérance et surtout la foi, nous a immédiatement subjugués, mon frère et moi. Son discours achevé, il se tourna vers nous et nous demanda de jeter nos filets à l'endroit qu'il nous indiquerait. « Maître, lui dis-je, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais bon, nous ferons comme tu le souhaites. » Or, nous fûmes bien inspirés de l'écouter, car en ramenant nos filets, nous nous aperçûmes qu'ils étaient remplis à craquer. « Quel coup de chance ! Jean et Jacques, les fils de Zébédée, durent venir nous aider, tant la pêche était miraculeuse. » Après la joie et la ferveur, j'étais troublé. « Maître, suppliai-je, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Mais comme il avait le sens de l'humour et de la répartie, il ne put s'empêcher de faire un jeu de mots en rétorquant « Sois sans crainte, désormais tu seras pécheur d'hommes. » C'est ainsi que j'ai commencé à suivre le maître et à constater que Dieu marchait véritablement avec lui. Il avait tout simplement les paroles de la vie. La réputation de Jésus le précédait partout où il passait. À chaque fois, les foules se massaient et nous tous qui le suivions, nous étions absolument impressionnés par son charisme, sa sagesse et l'autorité spirituelle qui émanait de lui. Ma propre belle-mère en fit elle-même l'expérience. Ayant appris que j'arrivais avec beaucoup d'amis, et sachant que je lui demanderais de participer à l'accueil, elle se mit au lit en prétextant qu'elle avait de la fièvre. « Laisse-moi la voir, me dit Jésus. » Il entra, lui parla gentiment, lui prit la main, et hop, la fièvre, disons plutôt sa mauvaise humeur, la quitta immédiatement. Voilà l'effet que Jésus faisait aux gens. Avec lui, il semblait que rien n'était impossible, pas même de nous guérir de nos maladies. Ce qui frappait les foules et déstabilisait du même coup les chefs et les prêtres, c'était son discours à propos des pauvres, des malades, des exclus. Il n'hésitait pas à aller vers eux, à leur imposer les mains en signe de compassion ou de bénédiction, et même à s'attabler avec eux. Pour le maître, l'image du Dieu juge impitoyable que campaient nos prêtres était fausse et archaïque. Elle découlait de la nécessité pour tous les peuples d'établir des normes morales afin de garantir l'ordre social et la vie domestique. C'est là un des plus vieux services, d'ailleurs, que les religions anciennes ont rendu aux sociétés dès leur commencement. En effet, comment pacifier les personnes, promouvoir le bien et l'altruisme, autrement que par la force et par la violence. Le recours à l'autorité des dieux, à leurs menaces de malédiction ou à leurs promesses de bénédiction, a toujours fait office de police des esprits pour rendre la vie de tous meilleure. Les Hébreux n'ont évidemment pas échappé au phénomène. La pastorale de la peur qu'exerçaient nos prêtres et nos scribes participait de ce rôle social imparti à la religion depuis les temps immémoriaux. Jésus, lui, voulait en finir avec cette représentation terrible de Dieu qui contredisait l'affirmation de sa bonté et de sa sollicitude envers les humains créés à son image et à sa ressemblance. De fait, si l'Éternel est bien à l'origine de l'humain, homme et femme, s'il fait pleuvoir sur les bons et les moins bons, et nourrit à l'égard de tous un sentiment filial, comment l'abaisser et le réduire au rôle du juge garant de l'ordre social, moral et religieux. Convaincu que l'idée de Dieu devait être réformée et même dégagée des besoins sociétaux qui étaient la charge de César, Jésus ne manquait pas une occasion de réconforter les plus petits et les plus humbles en les assurant que c'est effectivement par la foi que les péchés sont pardonnés. Et la loi et la tradition brandissaient alors les prêtres, les scribes et les pharisiens. Il n'est pas question d'abolir la loi, rétorquait Jésus, mais tout au contraire de l'accomplir, précisément en recherchant son but ultime, l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même. Pratiquer la loi pour la loi sans viser le but qu'elle indique, ce n'est pas accomplir la volonté de Dieu, disait Jésus. C'est rechercher bien plutôt une propre justice qui finit toujours par conduire ceux qui succombent à se croire meilleurs et supérieurs aux autres. Quant à la pureté rituelle, censée purifier du péché, eh bien, disait Jésus, ce n'est pas ce qui entre en l'homme, mais ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Nous autres, ses disciples, ne saisissions pas exactement la portée de cette parole. Je me souviens lui avoir demandé de préciser sa pensée. « Êtes-vous aussi sans intelligence ?» me répondit-il. « N'est-ce pas du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies ? Et n'est-ce pas cela qui rend l'homme impur ?» Selon le maître, le mal que la loi de Moïse cherche à circonscrire, à contenir, à punir, mais aussi à réparer si possible, c'est celui qui sort du cœur. La loi est dès lors moins un chemin qui mène à Dieu qu'un ensemble de règles pour vivre ensemble. C'est la foi, enseignait-il, qui ramène le cœur à Dieu, non la loi, et notamment lorsque l'humain pécheur découvre que Dieu est amour et qu'il lui tend la main. La prédication de Jésus ne visait donc en aucun cas à abolir la loi, mais bien à atteindre le but que la loi désigne, l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même. Ce message formidable, qui défrayait la chronique, mais gagnait de plus en plus de cœur, enrageait nos chefs. « Ce maudit Galiléen égare les foules, disait-il entre eux. Il devient une menace pour l'ordre que nous garantissons. Nous devons l'évincer. » Jésus n'ignorait pas leurs intentions. Mais que faire ? Rebrousser chemin ? Renoncer à l'espérance qui accomplissait des miracles dans les cœurs et dans les vies? Laisser tomber ces dizaines, peut-être même ces centaines de pauvres et d'exclus qui avaient placé leur confiance en lui? Renier ce royaume des cieux auquel il croyait personnellement de tout son cœur, en capitulant devant la pastorale de la peur et son Dieu juge impitoyable? Un soir, alors que nous montions à Jérusalem et que nous faisions étape à Césarée de Philippe, il nous a clairement dit que les chefs le feraient souffrir dans la ville sainte et qu'ils le livreraient à une mort certaine. De toutes mes forces, de toute mon âme, je m'y suis alors opposé. Maître, cela n'arrivera pas. Nous ne les laisserons pas faire. S'il les faut, je donnerai ma vie pour toi. Sur le coup, il s'est montré très dur avec moi. Mais plus tard, j'ai entrevu qu'il essayait de nous faire comprendre que le message de l'amour de Dieu et la liberté humaine ne sont pas négociables. Le maître était décidé, quoi qu'il en coûte, d'aller jusqu'au bout de son message de libération. Tous doivent savoir que Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais notre Père qui est dans les cieux. Vous serez mes témoins et vous aurez la charge de poursuivre ma tâche, d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à toutes les nations. C'est ainsi, en tremblant, que nous sommes entrés avec lui dans la ville sainte. Les cris et les chants joyeux de la foule qui psalmodiait « Hosanna au fils de David !» nous ont, il est vrai, beaucoup encouragés. Mais très vite, un bras de fer s'est engagé entre Jésus et les chefs, et nous avons commencé à frémir pour lui et pour nous aussi. Le soir où il sentit sa fin très proche, il parut plus solennel que d'habitude. Il commença par revêtir un tablier de serviteur, versa de l'eau dans un bassin et s'approcha pour nous laver les pieds. Arrivé devant moi, je refusai catégoriquement que lui, le maître, accomplisse cette tâche réservée habituellement aux plus modestes de la maison. « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Il me répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. »« Il n'en est pas question, maître. » Il rétorqua alors, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » »« Dans ce cas, lave aussi les mains et la tête, » ironisai-je. « Celui qui s'est baigné, » répliqua Jésus, « n'a pas besoin de se laver, il est entièrement pur. » Toujours ce langage énigmatique. Parlait-il du baptême, signe du retour à Dieu ? Vous êtes purs, reprit-il, mais non pas tous. Ayant dit cela, il se mit à table avec nous et entama un second geste solennel. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et nous le donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite la coupe. Il la fit circuler et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Un voile passa alors sur ses yeux et il murmura « Celui qui me livre est à cette table avec moi. » Nous nous regardions les uns les autres avec stupéfaction. Parlait-il encore en parabole ou évoquait-il la présence d'un traître parmi nous ? Après avoir chanté les psaumes, nous nous rendîmes au mont des Oliviers. Jésus nous dit alors « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Je pris la parole et je m'insurgeai de nouveau. « Maître, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais pas pour moi. »« Simon, Simon, me répondit-il, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Seigneur, lui répondis-je, je suis prêt à mourir pour toi. Pierre, reprit-il avec une infinie douceur, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu aies nié trois fois me connaître. J'étais sonné, mais je le suivis avec les autres jusqu'au jardin de Gethsémané. Jésus s'écarta un peu pour prier, nous laissant ressasser ses propos. Harassé de fatigue, nos yeux s'appesantirent. Il revint vers nous deux ou trois fois, manifestement inquiet et soucieux, nous reprochant même de ne pas veiller avec lui. Soudain, une troupe d'hommes fit éruption, conduit par Judas. C'était lui le traître, lui qui désignait maintenant Jésus aux gardes par un baiser de paix. Chacun de nous s'enfuit à toutes jambes. Les gardes du temple le conduisirent dans la maison du souverain prêtre. Je suivais à distance le convoi et je parvins à entrer discrètement dans la cour, me fondant parmi les serviteurs et ceux qui étaient là. Les gardes allumèrent un feu et s'assirent autour. Une servante me fixa alors et dit bien fort « Cet homme était aussi avec lui !» Je le niais catégoriquement. « Femme, je ne le connais pas !» Mais peu après, un autre s'approcha et dit de même « Tu es aussi de ces gens-là !»« Non, je n'en suis pas !» répondis-je promptement. Un intervalle d'environ une heure passa et un autre homme se mit encore à me désigner. « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen !» Je déclarai alors furieux « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire !» Au même instant, un coq chanta. Le maître se retourna et me regarda tristement. Je me souvins alors de la parole qu'il m'avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Je suis sorti de cet endroit abasourdi, abattu, désorienté, et je me mis à pleurer comme un enfant. J'ai pleuré amèrement cette nuit-là. Dans ma détresse, je refusais la réalité présente. Les pourquoi se bousculaient dans mon esprit. Pourquoi l'avait-on arrêté, lui, qui n'était que droiture et bonté ? Qu'allait-on lui faire ? Ils ne peuvent le garder, me disais-je. Qu'a-t-il fait de mal, après tout ? Et puis, tout le monde l'aime. La foule l'a d'ailleurs acclamé lors de son entrée à Jérusalem. C'était la fête, les gens étaient en liesse. Voici 3 ans que nous attendions cette entrée officielle dans la ville sainte. 3 ans que nous pensions que les chefs allaient forcément le reconnaître comme messager de Dieu. Et maintenant qu'il est là, dans la ville sainte, voici que les chefs le font arrêter? Mais pourquoi? Pourquoi l'ont-ils arrêté? Que s'est-il passé? Et moi qui n'ai même pas été capable de parler en sa faveur. Moi qui ai eu la peur de ma vie. Oui, peur. Peur qu'on m'attrape moi aussi et qu'on me fasse du mal. Oh mon Dieu, que vont-ils lui faire? Me demandai-je angoissé. Seigneur, aie pitié de lui. Aie pitié de moi. Aie pitié de nous. La peur est vraiment mauvaise conseillère. Elle nous conduit à la culpabilité et à la dévaluation de notre image intime. « Est-ce que je vaux mieux que ce traître de Judas qui l'a livré ?» me disais-je. Je me revoyais lui brandir mon soutien indéfectible. « Jamais, Seigneur, je ne t'abandonnerai !» Nous l'avions tous bel et bien abandonné. Et ce triple reniement allait me hanter maintenant toute ma vie. Au petit matin, après une mascarade de procès, un déni de justice orchestré par Caïphe, le grand prêtre, le Sanhédrin livra Jésus à Pilate pour agitation et sédition. Ce bourreau le fit alors clouer sur une croix, comme un criminel, à l'extérieur de la ville, au lieu-dit le Golgotha. Terrorisés, nous, ses disciples, hommes et femmes qui l'avions suivi, regardions de loin son exécution en pleurant. Nous étions désemparés. Comment pouvait-on le faire mourir ainsi, entre 2 brigands? Après ce moment effroyable, un membre du Sanhédrin nommé Joseph, qui était disciple de Jésus en secret, obtint de Pilate la permission de l'ensevelir. Joseph fit envelopper le corps du maître et le plaça dans un tombeau qu'il s'était fait tailler dans le roc. Une énorme pierre fut roulée pour sceller le tombeau, et les femmes vinrent nous retrouver dans la maison où nous nous étions réfugiés à Jérusalem. Le Shabbat allait commencer. Les choses auraient pu en rester là. Nous aurions tous pu reprendre nos barques, nos filets ou nos métiers respectifs. Mais Dieu en avait décidé autrement. Tandis que nous pleurions la perte de notre maître et ami, Jésus, la lumière jaillit dans nos cœurs au matin du 3e jour. Ce n'est pas le moment d'évoquer ici comment nous sommes passés des larmes à l'espérance que rien ne nous sépare jamais de l'amour de Dieu, pas même la mort. Ce que je veux en revanche absolument mettre en lumière, c'est ce qu'il m'a été donné d'apprendre, à moi, Pierre, à la suite de mon reniement. Nos fautes, nos faiblesses et nos lâchetés brouillent notre conscience et hante notre mémoire. Le reniement du maître m'a poursuivi jusqu'au jour où j'ai pu lui dire de nouveau et de tout mon cœur que je l'aimais. Ces 3 reniements qui me hantaient, je les ai échangés contre 3 Seigneur, tu sais que je t'aime. Et à chaque fois, la parole de Jésus, Pierre, quand tu seras revenu à moi, tu affermiras tes frères, a résonné en mon cœur, sous la forme de cette exhortation, « Paix mon troupeau, sois le berger de mes brebis. » Or, c'est ce message et cette expérience de foi dont je veux être le porteur parmi vous. La conscience morale exerce en l'homme la fonction du juge. Elle est la voix en nous qui nous dit ce qui est bien ou mal, mais elle préside aussi à la honte et à la culpabilité. Elle n'est certes pas à confondre avec la morale elle-même, qui est un système de valeurs, mais il est certain qu'elle intègre une morale et qu'elle en fait usage, souvent à notre confusion d'ailleurs, car la conscience morale est le juge le plus impitoyable qui soit. Alors que Dieu et la justice humaine laissent le fautif se reconstruire après l'aveu et la sanction du jugement moral, la conscience morale, elle, n'en a jamais fini de rappeler à l'esprit les fautes commises et de culpabiliser les individus tout au long de leur existence. Elle tourmente les esprits sans aucune considération de temps et de mesure. Elle nous culpabilise de façon disproportionnée. Dans mon cas, c'est l'Évangile c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus, qui m'a permis de sortir du cercle vicieux de la culpabilité. C'est en admettant que Dieu est fondamentalement amour et bienveillance, et que lui seul est parfait, que j'ai pu admettre, moi, Pierre, que j'étais faillible et sujet à l'erreur. Seuls ceux qui acquièrent cette conviction peuvent accueillir le pardon de Dieu pour leurs manquements, leurs chutes, leurs reniements, leurs fautes. C'est en acceptant le fait que j'étais un être fragile, sujet à déroger à mon éthique et à mes valeurs, que je suis parvenu au pardon de moi-même. Oui, moi, Pierre, j'ai dû apprendre à me pardonner à moi-même de ne pas avoir été à la hauteur de ce que j'espérais être. Le pardon anticipé du Maître, qui avait prévu mon reniement, m'a conduit à me pardonner et à être en mesure, finalement, d'assumer la mission confiée par Jésus. C'est ce que je me suis efforcé de faire en toute humilité, en prenant garde de ne plus présumer de mes forces, et en exhortant mes frères à s'assembler en communauté solide, propre à transmettre l'enseignement du Maître et à affermir la foi de chacun. Tel est le sens de l'exhortation fraternelle qui est consignée au deuxième chapitre de la lettre qui porte mon nom, et c'est d'ailleurs avec les mots de ce passage que je vous quitte, chers frères et sœurs. Rejetez toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et la médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des offrandes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture cette parole « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. »
Ainsi s'achève cette première conférence du carême protestant. Pierre, apprendre à se pardonner soi-même. Merci à Bruno Godelet, pasteur de l'église protestante unie de France à Neuilly-sur-Seine. À la réalisation, Thomas Jost. À la prise de son, Éric Boisset. Le carême protestant est coordonné par Brigitte Iselin, Antoine Sédoux et le pasteur Nathalie Chaumet. Présentation par Olivier Betty pour le service radio de la Fédération protestante de France. Vous pouvez commander le texte d'aujourd'hui en écrivant au 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris. Pour plus de renseignements, je vous invite à surfer sur carême-protestant.org. Dimanche prochain, la deuxième conférence du carême protestant sera consacrée à Marie-Madeleine, la bonne nouvelle qui relève. À suivre sur France Culture, le carême catholique en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Beau dimanche à tous et à chacun.